Bonjour à toutes et tous. La rubrique Radio Ado, graine de reporter scientifique de Radio Norine, s'est invitée dans les locaux du lycée Simone Veil, à Conflans-Sainte-Honorine. Je suis Dylan et accompagné de mes camarades Corentin,
Bonjour.
Théo
Bonjour.
et Julie.
Bonjour.
Nous recevons au micro Monsieur Guyan.
Bonjour à tous.
Assureur fluvial et expert en risque. Bonjour Monsieur Guyan.
Bonjour, je
Merci
suis
à
très content que vous m'ayez invité.
Merci à vous de vous être déplacé jusqu'à nous. Pour rappel, dans le cadre d'un projet lancé par la Fondation Tara, ma classe mène une enquête sur l'impact de la montée des eaux sur les activités fluviales. Il nous a semblé pertinent de vous interviewer en raison des professions que vous exercez. Nous enchaînons tout de suite sur la question 1 avec Corentin. C'est à toi.
Alors, du coup, je vais lancer les hostilités. Alors, quel est votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces métiers en particulier?
D'abord, ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est la passion que j'ai pour les bateaux, que ce soit pour la navigation fluviale, mais également pour la navigation maritime. Après le secondaire, j'ai fait des études de droit, et puis après ces études de droit, je me suis embarqué pendant un an et demi, sur des navires à usage complètement différent, des pétroliers, des chalutiers, des bateaux qui faisaient du tramping, etc. Et suite à cette période de navigation, j'ai commencé à m'intéresser à l'assurance maritime dans un premier temps, et puis ensuite à l'assurance fluviale.
Et qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour les bateaux? C'est juste que c'est venu naturellement comme ça?
Je faisais quand j'étais gamin. Jusqu'à l'âge de 23-24 ans, je faisais beaucoup de compétitions en voile et j'ai construit plusieurs bateaux à l'époque. Et cette passion des bateaux m'est toujours restée. À l'époque, on ne pouvait pas vivre de la compétition en voile. Donc, j'ai choisi d'autres objectifs pour organiser ma vie derrière.
Et pourquoi du coup assureur?
Eh bien, c'est un métier qui permet de pouvoir développer des connaissances tout azimut, aussi bien sur le plan technique lié au bateau que sur le plan de l'exploitation des bateaux, le coût de ces exploitations, les risques liés à l'exploitation de ces bateaux. Et voilà, c'est l'étendue de l'intérêt que représente l'assurance d'un bateau. Qui est attirant.
D'accord, ok.
Combien de salariés avez-vous dans votre entreprise? Dans quel secteur géographique intervenez-vous?
Alors, déjà, je dirige plusieurs entreprises. Une première entreprise qui était une entreprise de famille et qui a été vendue il y a 2 ans. Et dans cette entreprise, nous avions 35 salariés à peu près. J'ai créé une autre entreprise, toujours dans l'assurance, qui aujourd'hui est complètement spécialisée dans l'assurance fluviale internationale. Et nous avons une activité principalement en Amérique du Sud. Si je dois additionner les personnes qui travaillent avec moi ici en France et en Amérique du Sud, ça représente environ une dizaine de personnes. Et puis j'ai créé aussi une autre entreprise pour justement aller étudier sur un plan purement technique un certain nombre de risques liés aux armateurs et liés aussi aux assureurs, de façon à faire baisser ces risques et en même temps pouvoir être plus concurrentiel au niveau international en baissant les primes d'assurance.
Donc, vous êtes assureur fluvial et expert en risque. Quel est le rapport entre ces deux responsabilités et les relations entre les deux, s'il y en a une?
Je viens juste
Oui, voilà.
de l'expliquer très brièvement. À partir du moment où vous connaissez très bien les risques, vous savez imaginer comment faire pour faire baisser ces risques-là. Et en baissant ces risques, vous allez justement améliorer les résultats d'assurance derrière, les résultats des compagnies d'assurance. Et en améliorant ces résultats, eh bien, vous pouvez devenir plus concurrentiel en baissant les primes. raison pour laquelle une petite entreprise aujourd'hui comme la nôtre peut s'imposer au niveau mondial à travers des très grosses structures internationales, parce que nous avons su nous spécialiser dans cette connaissance du risque.
En quoi consiste un assureur fluvial ? Vous assurez qui, quoi, quand, où et comment ?
On assure tout. Pour aller très vite, on assure les armateurs, on assure les artisans, bateliers, on assure les exploitants de bateaux à passagers, on assure des convois. Pour donner juste un exemple, dans le cadre de l'activité internationale, nous avons des convois qui peuvent monter jusqu'à 42 barges, c'est-à-dire des convois qui peuvent avoisiner les 50 à 60 000 tonnes de possibilités de transport. En même temps, on va aller assurer les chantiers de construction navale, on va aller assurer les ports, on va aller assurer l'ensemble des propriétaires de marchandises. Voilà, en fait, la connaissance du monde du transport nous amène à connaître l'ensemble de cette profession et de nous intéresser à toutes ces professions-là.
Et c'est vraiment international, pardon, c'est vraiment partout avec tout le monde, absolument tout le monde.
Déjà, par définition, un bateau est destiné à faire du transport. Plus on peut imaginer des transports lointains, c'est-à-dire à l'international, plus l'opération de transport est rentable. Donc, par définition, et on peut remarquer même en France, nous avons un certain nombre de bateaux fluviaux qui partent à l'étranger. Nos frontières n'arrêtent pas nos bateaux. Les bateaux partent naviguer à l'étranger en permanence. Eh bien, si on doit parler de maritime, ce n'est que ça.
À partir d'un transport, est-ce que vous avez déjà eu un bateau qui revient parce que la marchandise n'était peut-être pas complète, ou vous avez peut-être perdu une marchandise en route, ou alors juste le client il n'en voulait plus?
Alors, le bateau qui revient, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Parce que une fois que la marchandise est partie, si par exemple le destinataire refuse la marchandise, on aura toujours la possibilité eh bien, de revendre cette marchandise à d'autres intéressés. Et il est très rare que la marchandise revienne. Ça peut arriver uniquement, en général, quand nous avons des marchandises d'une usine avec une fabrication très spécialisée. Si effectivement la marchandise est abîmée, ça peut nécessiter un retour à l'usine. Mais pour des marchandises de vrac, ça arrive très rarement. Ça peut arriver pour un conteneur, mais pas pour des marchandises de vrac ou des marchandises de produits liquides.
Et les produits que les gens vous renvoient, vous en faites quoi ?
Bon, alors déjà, si on doit parler d'assurance, il y a un principe. À partir du moment où l'assureur paye la perte de l'ensemble d'une marchandise ou même d'un bateau, l'assureur a le droit de devenir propriétaire, soit de la marchandise, soit du bateau. À partir du moment où il a payé intégralement. Donc, libre à lui d'aller trouver un autre acheteur derrière. On peut imaginer si c'est la perte d'un bateau, si c'est la perte d'une marchandise, eh bien que ces marchandises soient remises dans le marché, éventuellement à un prix réduit, si ceci se justifie. L'assureur, lui, a aussi la possibilité de ne pas accepter de prendre propriété de la marchandise ou du bateau et de laisser au propriétaire le soin de s'en occuper. Et à ce moment-là, il va indemniser en conséquence. S'il y a une récupération qui peut être faite, l'assureur essaiera aussi d'en profiter. Je suis suffisamment clair dans mon explication ou c'est compliqué ?
Moi, j'avais une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Troisième flotte mondiale fluviale, derrière les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, c'est environ 8000 unités qui naviguent pour faire du transport de masse essentiellement. Il y a un transport de conteneurs qui débute dans son développement, mais c'est essentiellement du transport de masse. Et c'est du transport essentiellement agroalimentaire qui est destiné soit aux États-Unis, soit à la Chine derrière. Donc, transport international.
D'accord, ok.
Voilà. Alors, évidemment, le transport fluvial, lui, commence par être international parce que ça va traverser différents pays pour arriver jusqu'au port maritime pour être exporté derrière.
Et c'est que de l'agroalimentaire ? Il peut y avoir encore d'autres...
Il peut y avoir du minerai, il peut y avoir des produits liquides, ça peut être des engrais, ça peut être des hydrocarbures, voilà, donc en fait, ça peut être des huiles, c'est tout ce que l'on peut connaître ici en Europe, mais très souvent à la puissance 10, c'est-à-dire multiplié par 10. Voilà.
D'accord, ok.
Y a-t-il un changement au vu des événements récurrents et changements climatiques ?
Alors... C'est... Répondre à cette question est un peu compliqué, parce qu'on s'aperçoit sur le long terme qu'il y a toujours eu des cycles. Quand je suis arrivé en Amérique du Sud, ceci il y a un petit peu plus de 30 ans, j'ai remarqué des crues très importantes. On survolait en avion une partie avant d'arriver dans les villes où j'avais des rendez-vous, et on peut dire qu'il n'y avait que la ville qui était hors d'eau. Tout autour, c'était inondé sur des millions d'hectares. Je n'ai pas revu ce phénomène depuis une quinzaine d'années, juste pour vous dire. Mais je sais que c'est cyclique. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à un certain moment peut arriver à nouveau. En même temps, ce sont des rivières, contrairement, rivières ou fleuves, contrairement à nous en Europe, qui sont sans aucun aménagement, à savoir ce sont encore ce que l'on peut appeler des rivières sauvages. Il n'y a pas d'écluse, il n'y a pas de quai qui canalise la rivière, il n'y a pas d'aménagement de la rivière pour réfréner l'eau. Donc en fait, c'est des rivières complètement sauvages. C'est la grosse différence que nous avons par rapport à l'Europe. Et de ce fait, la rivière est beaucoup plus réactive. Alors il y a également une différence importante, c'est la déclivité. Vous avez une déclivité très 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 faible, ce qui veut dire que dès qu'il pleut, l'eau n'a pas cet effet torrentiel que l'on peut connaître ici en Europe, elle va tout de suite s'étaler et elle va provoquer des crues qui peuvent être seulement qu'une partie du réseau, pas tout le réseau. Sur la Seine, d'abord aussi, c'est une question de dimension, la Seine fait 700 km de long. C'est une rivière relativement courte par rapport à ce que nous pouvons constater en Amérique du Sud, où on est plus proche de 7000 que de 700 sur le total. Ce qui fait qu'on a des phénomènes de crues à certains endroits, pas à d'autres. Alors que sur la Seine, très souvent, les crues se généralisent sur l'ensemble du parcours de la Seine.
Avez-vous une carte des tronçons de fleuves où il y a plus de risques ?
Alors, je n'ai pas constitué de carte, mais j'ai constitué port par port, pour simplifier, depuis des années, les hauteurs d'eau que nous pouvions mesurer dans les ports. Pour moi, le port est le point de référence pour que les marchandises puissent partir ou que les marchandises puissent arriver. Et donc, ça me permet, en suivant la hauteur d'eau des ports, de me faire une idée du risque du transport d'une façon générale. Alors je voudrais juste faire un petit aparté par rapport à ce risque du transport. Quand on transporte sur de très longues distances, comme je viens de vous l'évoquer, plus de 6000 km, ce sont des transports qui vont durer beaucoup de temps, qui peuvent durer un mois, un peu plus d'un mois. Et quand vous avez des grosses chaleurs, vous pouvez avoir des transformations de la marchandise par pourrissement, par la chaleur que ça peut occasionner, quand ça reste trop longtemps dans l'opération de transport. Et donc, il faut faire attention, justement, avant que le bateau ne parte, avant que le bateau ne soit chargé, qu'il puisse arriver à destination dans un temps normal. Sinon, on va à la perte de la marchandise derrière.
D'accord.
Voilà, donc c'est juste pour répondre. On fait attention à la hauteur d'eau dans les ports, parce que ça va nous aider pour imaginer ce qui va se passer dans le mois qui suit. Et combien de temps nous allons avoir besoin pour transporter d'un point A à un point B une marchandise sans que celle-ci puisse être altérée.
Et comment vous suivez la hauteur de l'eau dans les ports? Vous faites ça par jour, vous regardez la hauteur, je ne sais pas vous...
Eh bien, aujourd'hui, c'est très simple. La plupart de ces ports indiquent la hauteur d'eau sur Internet. Donc, on peut suivre, port par port, les variations d'eau sur l'ensemble de l'année, et on a même toutes les références des années précédentes. Alors, c'est relativement récent, puisque ces références des années précédentes, ça n'existe que depuis 10 ans. Mais, quand on discute avec les armateurs, quand on discute avec les professionnels, on peut avoir un historique beaucoup plus long.
Et vous faites comment, après, pour savoir ce qui va se dérouler dans le mois prochain, en fait, à partir de ça?
Eh bien, quand on sait quelle est la quantité d'eau qui tombe en aval, on peut prévoir quelle sera la quantité d'eau que l'on va récupérer en amont. À l'inverse. Voilà, à l'inverse, quand on connaît la quantité d'eau en amont, on va connaître la quantité d'eau en aval quelques temps après. Et en plus, comme on connaît à peu près la vitesse de l'eau, on peut savoir quand on va avoir une remontée d'eau dans telle ou telle partie de la rivière ou du fleuve.
Et vous avez dit que vous pouvez voir ça grâce à Internet, mais seulement depuis 10 ans. Mais avant, justement, ça, est-ce que vous le faisiez? Et si vous le faisiez, vous le faisiez comment, du coup?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette préoccupation est relativement nouvelle. C'est l'accroissement du transport qui a suscité l'intérêt d'aller vérifier ce risque-là. Donc, on vérifie ce risque-là depuis 10-12 ans. Aller rechercher l'historique, c'était intéressant pour pouvoir justement analyser ces périodes de cycle. Ou alors, en instantané, savoir comment allait réagir la rivière par rapport à des chutes d'eau en amont liées à l'aval. Voilà, donc en fait, ces études ont commencé d'une façon relativement récente, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, on connaît déjà beaucoup d'éléments d'analyse sur ces rivières-là.
D'accord, ok.
Quels sont les risques pour les fleuves, les rivières? Comment évaluez-vous les risques sur les fleuves, plus précisément sur la Seine et l'Oise, des rivières du même secteur géographique? Ou des rivières du même secteur géographique?
Alors, les risques liés aux crues, on peut dire qu'on a des organismes ici en France, notamment Voies Navigables de France, qui sait très bien prévoir les phénomènes de crues. C'est exactement ce que je vous disais avant. Quand on sait quelle est la quantité d'eau qui tombe en amont, on va savoir aussi quelle est la quantité d'eau qui va arriver en aval. On va pouvoir aussi, on a plusieurs moyens d'organiser cette régulation, avec notamment, pour ce qui est de la Seine, l'ensemble des lacs de rétention qui ont été faits depuis la crue de 1910 dans le Morvan, le lac de Pansières, le lac des Sétons, qui servent de réservoir pour l'eau qui pourrait partir, qui partait précédemment sous forme torrentielle dans la Seine pour aller alimenter des crues subites. Aujourd'hui, avec ces lacs de rétention, on peut énormément modérer les crues, raison pour laquelle, plus d'un siècle après la crue de 1910, nous n'avons pas observé d'autres phénomènes identiques. On régule les quantités d'eau pour éviter que, immédiatement, elles aillent amplifier les phénomènes de crues dans les rivières ou dans les fleuves.
Et avec quel indicateur vous pouvez savoir qu'il y a un risque, même si après vous pouvez modifier les flux? Est-ce qu'il y a un moment où vous savez que ça peut arriver, avant justement de gérer le flux?
C'est exactement le travail de Voies Navigables ici en France.
D'accord.
Voilà, il prévoit en permanence, il y a des avis à la batellerie en même temps, il y a les hauteurs d'eau qui sont indiquées quasiment, bief, même c'est pas quasiment, c'est la certitude, bief par bief. Donc en fait, on sait exactement comment l'eau évolue dans les fleuves, et puis les navigants peuvent aussi s'organiser par rapport à ces quantités d'eau pour savoir s'ils doivent réduire leur tonnage au moment du chargement ou s'ils peuvent charger à fond. Voilà, tout simplement.
J'aurais une petite question. Est-ce que VNF fait très bien son travail ou pas?
D'abord, ce n'est pas à moi d'en juger. Il est évident que VNF, par rapport à la tâche qui lui incombe et qui est définie par l'État, il est évident qu'il y a un résultat totalement positif que l'on peut constater. Maintenant, quels que soient les métiers, on peut toujours aussi améliorer la connaissance, améliorer l'efficacité. Donc ceci est quel que soit le métier, c'est tout. Et que l'on puisse critiquer telle ou telle façon de procéder. Ça existe dans tous les métiers.
Si un grand risque survient, y êtes-vous préparé? Vous sentez-vous préparé?
S'il y a, j'ai pas très bien compris, s'il y a un grand risque,
Qui survient?
est-ce qu'on est, on est préparé à ce grand risque?
Oui.
A priori, oui. Parce que il y a longtemps que l'homme a appris d'essayer de prévoir ce qui allait se passer. Quand on travaille sur le plan de l'assurance, on ne fait que prévoir. On ne travaille qu'en statistique. On regarde ce qui s'est passé. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé, on a des données statistiques. Et ces données statistiques vont aussi nous permettre de prévoir l'avenir. Quelle sera la statistique d'obtenir tel ou tel grand risque? Alors, parmi les grands risques, il peut être intéressant que vous sachiez quels pourraient être dans l'activité fluviale ces grands risques. Il n'y a pas que le phénomène de crue. Il y a aussi les problèmes de tempête. Il y a les arbres, par exemple, qui sont arrachés par la crue, qui sont, que, les, que le vent fait tomber, ensuite arrachés par la crue et qui s'en vont au gré du courant. Ça, ce sont des risques importants dans le cadre de la navigation. Donc, il n'y a pas que juste le problème de crue. Ça va bien au-delà. C'est toute l'organisation de la rivière avec les embâcles, les arbres qui partent à la dérive. On les appelle des embâcles. Avec les embâcles qui partent, eh bien, c'est aujourd'hui un des risques majeurs que la navigation rencontre sur les rivières et sur les fleuves.
Y a-t-il des gens ou des accidents que vous refusez d'assurer et pourquoi?
Alors, intéressant la question. À partir du moment où le risque est accidentel, ça veut dire que tout simplement, en termes de statistiques, on sait le prévoir. On sait très bien que on va avoir tant de bateaux qui vont couler tous les ans, c'est la statistique. On sait très bien combien d'abordages on va avoir. On sait très bien l'importance des dommages que nous allons rencontrer sur l'ensemble d'une flotte. Tout ça, ce n'est que des problèmes statistiques. Et toutes ces statistiques, à terme, se maîtrisent très bien.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir plus de problèmes que prévu, justement?
Eh bien, on peut remarquer que d'une année sur l'autre, nous avons un certain équilibre et que la dérive de statistique est toujours relativement faible.
D'accord.
C'est, si vous voulez, on ne va pas avoir, en termes d'abordage, 10% d'augmentation des abordages. Non. sur l'ensemble d'une flotte, les bateaux qui ont été abîmés, qui ont eu des dommages, on va s'apercevoir que d'une année sur l'autre, on n'aura pas non plus 10% de variation. Donc, pour vous dire qu'il y a une certaine stabilité. Alors, par contre, ce qui peut changer la donne sur le plan de l'équilibre financier que recherchent les compagnies d'assurance, sont les accidents exceptionnels. Prendre un exemple, un bateau qui détruit une écluse. L'écluse se retrouve immobilisée pendant quelques mois. La navigation sur le fleuve peut être immobilisée longtemps. Et c'est toute une profession qui aura à en souffrir derrière. Alors, quand il s'agit d'un problème accidentel, c'est assurable toujours. Quand ce n'est pas accidentel, c'est que très souvent, il s'agit d'un problème de maintenance, il s'agit d'un problème de vétusté. Tout ceci peut être prévu, et c'est prévu. Parce que depuis, on peut dire, 20 à 30 ans, systématiquement, maintenant, les bateaux sont inspectés régulièrement pour aller vérifier leur état, de façon à ne pas créer des accidents qui, justement, ne sont pas accidentels. Quand un bateau coule, il peut couler pour deux raisons différentes. Soit c'est accidentel parce qu'il a touché le fond de la rivière, ou alors sa coque n'était pas en bon état et il y a eu une voie d'eau qui s'est occasionnée. Ça peut être prévisible. Raison pour laquelle il y a ces expertises qui se tiennent d'une façon régulière pour vérifier l'état des bateaux. Donc tout ce qui n'est pas accidentel, on peut le prévoir et l'étudier en amont pour éviter d'avoir l'existence de ces risques-là.
Est-ce que vous faites de la sensibilisation sur les risques ?
Eh bien, cette sensibilisation sur les risques, il faut bien vous dire que, d'abord, c'est l'intérêt des armateurs eux-mêmes. C'est aussi l'intérêt des transporteurs, les propriétaires de marchandises. Eux-mêmes ont intérêt à ce que les opérations de transport se passent bien. Et bien entendu, l'assureur qui est là pour payer les risques, s'ils arrivent, eh bien, a aussi intérêt à favoriser cette recherche pour limiter les risques à terme.
Est-ce que vous avez quand même un type de public en particulier que vous voulez sensibiliser ? En particulier, un type de public
Alors,
en tout cas, qui vous avez touché majoritairement.
Alors, si vous voulez, évidemment, tous les risques majeurs, on va s'y intéresser de très près pour éviter que celui-ci arrive. Exemple, la pollution. Vous avez un pétrolier qui se casse en deux sur la Seine. Ça peut occasionner des dégâts en termes de pollution de pétrole absolument énormes. On pouvait imaginer à la veille des Jeux Olympiques qu'un pétrolier se casse en amont de Paris et occasionne une pollution de la Seine absolument épouvantable au moment des Jeux Olympiques. Vous voyez un peu les catastrophes que ça peut occasionner. Donc évidemment que tout le monde vérifie et essaye de prévoir au maximum pour pas que ça arrive. Je vais continuer sur le plan de la pollution. C'est une des raisons pour lesquelles, il y a une trentaine d'années, pour l'activité fluviale, il a été rendu obligatoire pour des produits dangereux pour l'environnement, eh bien, de naviguer ou de faire naviguer des bateaux à double coque. Donc on a doublé les coques. Si jamais la première coque était crevée, il y avait toujours la deuxième. Donc en fait, on réduisait d'autant plus l'impact sur des risques éventuels derrière. Voilà, juste pour prendre l'exemple de la pollution. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres exemples. Le transport de passagers. On transporte des hommes, on a une responsabilité très importante vis-à-vis des hommes transportés. Il y a un accident, on peut avoir des blessés, des morts, etc. Eh bien, tous les bateaux à passagers aujourd'hui font l'objet de visites par différents organismes spécialisés pour vérifier que tout est en règle et que et que la gestion du bateau se fait au mieux des techniques connues actuellement. Donc en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que pour le transport de passagers dans l'activité fluviale, nous avons des statistiques absolument extraordinaires, avec très 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 peu de personnes blessées à bord des bateaux. Si on doit considérer avec la route, on peut dire que la différence est de 1 pour 10 000. Voilà. Donc en fait, on a sur ce risque-là, on a su et on a appris à travailler pour limiter les risques au maximum.
Donc il y a beaucoup de projets qui sont mis en place pour limiter les risques, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres, enfin, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres projets à l'avenir encore qui vont encore plus solidifier justement cette sécurité pour tout, globalement?
Alors, la réponse est très simple. La technique évolue en permanence. Et que quand une technique nous permet d'améliorer un risque, bien entendu qu'on va l'utiliser. Exemple. Il y a 20 ans, on a eu un pétrolier qui s'appelait l'Erika, qui a coulé en plein milieu du golfe de Gascogne, en créant une énorme pollution. Ce bateau a cassé en pleine tempête, alors que, quel que soit le bateau, quel que soit le navire, il est étudié pour pouvoir, justement, naviguer en toute sécurité dans la tempête. Pourquoi il a cassé ? C'est que au bout de 25 ans d'usage, ce bateau a été régulièrement mal chargé en créant des déséquilibres dans le bateau au moment du chargement ou du déchargement. Et ces déséquilibres ont créé des micro-fissures dans la coque jusqu'au moment où une tempête a suffi pour casser en deux le bateau. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la technique, avec des moyens de sonde, on va pouvoir connaître exactement comment bouge la coque au moment du chargement ou du déchargement. Ce qui veut dire que pour des pétroliers aujourd'hui, casser à cause de mauvais chargements, ça ne peut plus exister. Parce qu'on va avoir des alarmes sur le bateau qui vont se déclencher, pas nécessairement sur le bateau, l'armateur va être au courant aussi qu'il y a des problèmes de chargement, de déchargement. Tout ceci va être transmis par satellite. Et le port même qui est en train de charger, ou le responsable du port qui est en train de charger, va aussi recevoir une alarme en disant « Attention, vous êtes en train de dépasser les bornes. Rectifiez votre chargement. » Moyennant quoi, grâce à la technique, on est en train de supprimer les risques de demain.
Voilà. Et vous avez là des exemples de projets justement pour les plus gros risques, pour les plus gros, les plus probables, pardon, qui sont encore en... Comment dire, comment je vais expliquer
alors, ça ? Alors, juste pour répondre à ta question, l'exemple que je viens de te donner, il y a encore un grand nombre de bateaux qui ne sont pas équipés de ces sondes qui permettent de connaître les torsions du bateau au moment du chargement ou du déchargement. Donc, c'est en train de, petit à petit, d'équiper l'ensemble des flottes à travers le monde. C'est complètement d'actualité.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres entreprises ou pas ?
Je n'arrête pas de travailler avec toutes les entreprises. En fait, on ne peut pas travailler, quelle que soit l'entreprise, l'entreprise ne peut pas travailler pour elle toute seule. On est toujours en contact avec d'autres entreprises. Et imaginez, par exemple, si on doit parler d'évolution technique, on est tout le temps en train d'imaginer ce que nous pourrions améliorer et en relation avec d'autres entreprises. Et une entreprise ne peut pas avoir toutes les connaissances. On est obligé de partager nos connaissances avec d'autres entreprises pour faire avancer la technique.
Et vous travaillez avec quelle entreprise pour savoir ?
Alors, je dirige donc une entreprise qui procède à toutes ces études techniques. Et nous travaillons notamment, déjà, l'ensemble de ce que nous avons bâti. Nous avons les sondes d'un côté, nous avons des analyses informatiques que l'on installe à bord des bateaux, et toutes ces données sont transmises par satellite. De l'autre côté, nous avons une plateforme informatique qui recueille les informations, et Cette plateforme informatique envoie toutes ces informations, toutes ces données à tous les ayants droit liés à l'opération de transport. L'armateur, ça peut être le chargeur, ça peut être le port qui va savoir quand est-ce que la marchandise va arriver, etc., etc. Donc en fait, tout de suite, je viens de vous citer l'ensemble des composants d'une nouvelle technique. Eh bien, on ne fait pas tout ça tout seul. On associe dans ce travail d'autres entreprises qui ont ces spécialités. Spécialité de l'informatique, spécialité de la transmission satellitaire, spécialité des connaissances en droit que ça nécessite pour savoir organiser les uns par rapport aux autres en fonction du droit et en fonction des obligations de transport. Voilà, donc en fait, c'est tout un ensemble de connaissances qui, pour faire évoluer la technique, sont obligées de se connecter les uns les autres.
Vous avez parlé des risques techniques, mais qu'en est-il des risques naturels sur les bateaux, par exemple le débordement des fleuves?
Alors, cette question est amusante. Pour la simple raison, c'est que le bateau ne subit aucun dommage quand les eaux montent. Si le bateau ne navigue pas et qu'il ne se met pas à naviguer en dehors du fleuve, il n'y a pas de risque. Le bateau monte avec les eaux. Et une maison, ce n'est pas le cas. Donc autant une maison, si on a une montée du fleuve, est exposée, autant le bateau, il va bouger avec le fleuve, que l'eau descende ou que l'eau monte, le bateau va suivre le mouvement, il flottera toujours de la même façon.
J'aimerais revenir sur le point d'avant. Les conséquences du dérèglement climatique sont catégorisées dans l'accidentelle ?
Pas en tant que tel, parce que pour le moment, ici en Europe, nous n'avons pas constaté de manque d'infrastructures pour arriver soit à des situations de crue non maîtrisables, je parle de la navigation et des bateaux, hein, soit de périodes de sécheresse. Il faut savoir qu'en Europe, nous avons, par exemple, au niveau de la navigation intérieure européenne, nous avons toute une organisation des transports qui s'est faite en 1875, ce qu'on appelle l'acte de Mannheim, qui a organisé la navigation sur l'ensemble de l'Europe à travers l'ensemble des pays européens. Ça a été le premier acte existant réunissant l'ensemble des pays européens fluviaux, qui utilisaient la voie fluviale, pour travailler sur les mêmes bases. Et il était prévu, en termes de crue ou de basse eau, eh bien, des dispositions particulières pour l'exploitation des bateaux. Et ceci depuis 1875. Juste pour vous dire que, eh bien, la réflexion se mène déjà depuis très longtemps sur comment faire naviguer des bateaux dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, si on doit voir, notamment en Amérique du Sud, qui sont des pays que je connais bien, aucun aménagement n'a été fait, ce sont des rivières sauvages, et on est aujourd'hui dans les prémices d'une installation qui va permettre de sécuriser la navigation à terme, aussi bien sur les baseaux que sur les problèmes de crue. Ici en Europe, ça existe depuis 1875. Les rivières ont été aménagées pour faciliter le transport et faciliter le déplacement des bateaux.
J'aimerais revenir sur ma question sur les conséquences des risques naturels sur les bateaux. Je voulais parler des activités des bateaux commerce dans le futur.
Tout ce que je viens de vous dire, ça concerne que les bateaux de commerce. Il est bien évident que des bateaux de plaisance sont déjà beaucoup, beaucoup plus petits. Et ce n'est pas ces bateaux-là qui intéressent réellement le développement des risques futurs. Ce sont uniquement que les bateaux de commerce.
D'après vous, est-il possible de solutionner les problèmes causés par la montée des eaux fluviales et comment ?
Il y a des limites. On peut dire, on ne peut parler qu'en pourcentage encore. On ne peut parler qu'en statistique. Dans ce que nous connaissons aujourd'hui, on peut dire que dans 99% des phénomènes météorologiques, on sait gérer le problème. Évidemment, il reste le pourcent restant. Il y a peut-être des leçons à tirer, il y a peut-être des réflexions à continuer d'avoir. Il est évident qu'aujourd'hui, nos politiques s'intéressent beaucoup aux crues qui alimentent au quotidien les chroniques des journaux. Et on sait qu'on a fait des erreurs par le passé pour aller construire n'importe où. Dans les zones de, justement de débordement de ces crues. Donc au quotidien, on peut dire que les hommes s'intéressent à réduire leurs risques dans le futur. Ceci est aussi vrai pour les conséquences des crues liées aux habitations, liées aux villes, que pour l'exploitation des bateaux. Pour l'exploitation des bateaux, la conséquence directe, quand tout à l'heure je vous disais que le bateau allait monter avec l'eau, ben c'est évident. Le problème que l'on va rencontrer pour les bateaux, c'est qu'on a construit des ponts. Alors, ce n'est pas un problème, tant mieux. Mais on a construit des ponts. Et que quand l'eau monte, les bateaux ne peuvent plus passer sous les ponts. Donc le trafic et le transport s'arrêtent à ce moment-là. Donc peut-on imaginer de relever les ponts? Je crois que ce n'est pas demain la veille.
Quels sont vos rapports avec les organisations qui travaillent sur les phénomènes climatiques?
Il y a sûrement des exemples. Personnellement, j'en connais pas. Personnellement, j'en connais pas parce que l'organisation de l'assurance, c'est une addition de compagnies d'assurance qui vont travailler chacune par rapport aux risques qu'elles étudient. Et comme je vous disais tout à l'heure, on travaille à partir de statistiques, on travaille à partir de données historiques. On travaille depuis le passé. Et que de commencer à travailler avec des associations écologistes, c'est tout simplement aussi essayer de prévoir l'avenir. Les assureurs, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement dans cette démarche. On peut se réadapter, nous assureurs, relativement rapidement. D'un an sur l'autre, on peut se réadapter par rapport à un risque qui va apparaître. Nous ne sommes pas à prévoir ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Par contre, l'assureur va accompagner, mais on n'a pas pour autant de relation avec les associations écologistes, va accompagner la transformation de la motorisation. Aujourd'hui, des grosses compagnies qui ont des moyens techniques internes vont aller suivre toute la remotorisation électrique qui est en train de s'opérer. La raison est fort simple. C'est que les armateurs qui s'équipent de moteurs électriques vont devoir s'assurer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les assureurs vont étudier? C'est le risque de ces nouveaux moteurs électriques. Nous savons par exemple que les batteries peuvent poser problème sur le plan d'incendies spontanés, etc. Comment contrôler ces incendies? Ça, c'est directement ce que l'assureur va essayer de prévoir dans l'avenir. Mais on est assez éloigné des préoccupations de l'écologie telle que vous l'entendez.
Est-ce que lors de trop grosses commandes, vous avez déjà fait appel à une entreprise tierce ?
Commande de quoi ?
Une commande ou une assurance ou vraiment une activité que vous ne pouvez pas résoudre tout seul, votre entreprise toute seule.
Déjà, on ne peut pas avoir la chance infuse. On ne peut pas tout connaître. Donc évidemment qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, on va essayer d'aller rechercher les entreprises qui vont nous permettre de résoudre le problème. Alors, il faut aussi savoir que les assureurs ont organisé depuis toujours un réseau d'experts. Alors, expert, c'est un bien grand mot. On est expert en quelque chose. On est spécialisé dans une technique. Eh bien, les assureurs travaillent avec un réseau d'experts qui peuvent justement apporter toutes ces techniques-là. Alors, on commence par travailler avec un réseau d'experts avant de s'adresser à des sociétés spécialisées qui peuvent nous apporter leur savoir-faire derrière.
Corentin, je te laisse poser la dernière question.
Peut-être pas la dernière, mais moi, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Vous avez dit que la technique va toujours évoluer dans l'avenir. Maintenant, il y a des grands risques que le dérèglement climatique aggrave ou alors de nouveaux problèmes apparaissent. Comment allez-vous rentabiliser en fait ces nouvelles apparitions de problèmes en fait à cause du réchauffement climatique ou même autres problèmes?
Alors, il faut savoir, par exemple, que bon, par rapport aux rivières, je pense que on est dans une gestion de l'eau relativement stable. Comme je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que l'on parle de montée des eaux et de par la fonte des glaciers, de la fonte des pôles, etc. Et que tout le monde prévoit une montée des eaux, des océans, des mers, d'une façon générale. Ceci, aujourd'hui, on peut dire que tous les ports étudient comment résoudre cette montée des eaux pour rehausser l'ensemble de leurs installations. Donc, on ne reste pas insensible à ce qui pourrait être la réalité de demain. Et qu'on a des professionnels, par rapport à leur propre activité, je viens de citer les ports, réfléchissent comment se réorganiser pour ne pas avoir à subir un jour des immobilisations de leurs ports. Donc aujourd'hui, c'est complètement d'actualité.
Et vous pensez du coup pouvoir quand même gagner de l'argent même avec ça, ou alors vous pensez que le commerce, en tout cas sur tout ce qui va être assurance et des fluviales, va drastiquement baisser?
On ne retournera sûrement pas à l'âge de Cro-Magnon. C'est tout simplement que aujourd'hui, à chaque fois que l'on pressent un danger, un risque, nous allons l'étudier. Et je pense que vous tous, actuellement, dans le cadre de votre scolarité, eh bien, on vous apprend au jour le jour comment vous débrouiller dans la vie. C'est l'objectif de demain. Eh bien, quand vous apprenez comment vous débrouiller dans la vie, eh bien, une société fait pareil. Elle va apprendre aussi à se débrouiller pour continuer à ce que la société subsiste dans le futur. Donc on ne reste pas inactif. Toute la société va dans le même sens pour essayer de ménager l'avenir et de continuer à vivre le plus normalement possible dans l'avenir.
C'est l'ensemble du monde du transport qui nécessite des techniques nouvelles. On ne peut pas tout développer, on pourrait parler 10 fois plus. Aujourd'hui, par exemple, les navires sont en train d'imaginer la mise en place de voiles, de systèmes de voiles qui va dans un premier temps leur permettre de réduire énormément leur consommation. Et puis, tout le monde réfléchit sur cet avenir. Comment rendre meilleure la planète plus tard? Et en dehors de la volonté politique qu'il y a, il y a aussi cette volonté économique, de rentabilité, de baisse des coûts. Donc en fait, de gré ou de force, tout le monde va dans le même sens à terme.
Et vous pensez qu'il peut y avoir un équilibre entre, entre écologie et économie, vous pensez? Comment on va trouver un juste milieu?
C'est une obligation. C'est une obligation. Alors, il est vrai que certaines industries seront plus polluantes que d'autres. Le tout est de savoir quelle est la nécessité pour la société de l'exploitation de ces industries. On peut imaginer que nous sommes des êtres qui savons penser et qu'on ne fera pas n'importe quoi dans l'avenir. Il y aura toujours un équilibre. Et qu'il faut, avoir au niveau d'une société tous les courants de pensée, justement, qu'il y ait des alertes possibles, qu'il y ait des personnes, même s'ils exagèrent, c'est pas grave, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout doit être étudié, tout doit être pensé à terme pour voir comment la planète va pouvoir survivre au traumatisme d'aujourd'hui.
Eh bien, c'était la fin de cette émission. C'est la rubrique Radio Ado, graine de reporters scientifiques. Merci beaucoup, monsieur Guillon, d'avoir répondu à nos questions. Merci à mes camarades et merci à nos auditeurs et auditrices.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir convié et vos questions étaient très intéressantes.